avant qu'elle nous sourie. C'est ce qu'aime rappeler notre invité. Il est médecin légiste à Liège. Il raconte la dissection de ses cadavres dans des livres. C'est le grand succès de l'édition francophone. En pleine foire du livre de Bruxelles, notre invité, c'est Philippe Boxo.
Le légiste qui fait donc parler les morts et sourire surtout aussi son éditeur. Plus d'un million de ventes pour ses trois livres. Traduction un peu partout, dans 30 pays en gros. Un compte TikTok à plus de 400 000 abonnés. Il sort son dernier bouquin, donc Les morts ont la parole, aux éditions Kenaise. Des histoires de cold case, de l'humour en fait. Et ça cartonne aussi beaucoup chez un public jeune et un public qui lit peu de livres. C'est ça qui est intéressant. Près de 4000 autopsies au compteur dans plein de grandes enquêtes aussi judiciaires belges qui ne sont pas dans ces livres parce que ce sont des cas anonymisés justement. Philippe Boxo a même été autopsié, figurez-vous, les charniers de Milosevic au Kosovo.
5h, 10h. Matin première.
Bonjour Philippe Boxo.
Bonjour.
Expliquez-nous un peu ce choix d'être médecin légiste. Vous êtes médecin, mais quoi? Vous n'étiez pas fait pour soigner les vivants? Vous préfériez vous occuper des morts?
Ça m'embêtait un peu d'entendre des vivants se plaindre, c'est ce que je dis toujours. Bah, c'est plutôt à titre de boutade que je le dis, mais c'est vrai. Ça m'embêtait d'entendre des vivants se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de vraiment les guérir en médecine. Et donc, ils revenaient chez moi en me disant, ça va pas mieux. Et ça, vraiment, ça me pesait très lourd. Et la médecine égale s'offrait à moi, donc j'ai opté pour la médecine égale. Mais c'est aussi un choix que de passion. C'est-à-dire, la médecine égale me passionnait, mais je me disais, allez, tu fais quand même pas la médecine pour soigner des morts. C'est ce que disait toujours ma fille quand elle était petite. Papa, il soigne les morts. Tu fais quand même pas la médecine pour ne pas soigner les gens. Donc ça a été pour moi un certain renoncement que d'accepter de ne plus soigner, même si ça me désespérait. Vous voyez, c'est compliqué. Hein,
c'est compliqué.
Comment vous ne ramenez pas cette mort à la maison, justement? Comment vous vivez avec cette situation un peu morbide?
J'en sais rien. Je suis fait comme ça. Donc les situations morbides telles que vous le dites, c'est des situations que moi je vois pas morbides. Je vois des morts, mais pour moi c'est pas morbide. Donc il y a rien de négatif à ça. Pour moi ça fait partie de la vie. Mais de mourir.
Dans votre livre, à un moment donné, vous décrivez une scène hein, où un mari a tué sa femme. Vous arrivez sur place, le mari est là, les enfants aussi, et vous dites la scène, elle est touchante comme toujours. J'aurais préféré éviter cette rencontre, éviter cette explosion de sentiments qui me saute au visage. Autant vous décrivez avec humour et même aussi dans les studios télé votre métier, il y a quand même parfois l'émotion qui doit.
Ah oui, bien sûr que ça. On reste des êtres humains. Hein. Je suis pas complètement psychopathe, quoi. Donc j'ai encore la possibilité de ressentir des émotions. Mais je ne dis pas que c'est agréable, hein, parce que justement la personne est morte et les émotions que vous recevez dans la tronche, c'est des émotions négatives, dans le sens où c'est de la tristesse de la part des gens, même de la part parfois de celui qui tue, quand il se rend compte de ce qu'il a fait. Faut pas imaginer que le meurtrier est nécessairement quelqu'un qui est une sale bête, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas tout le temps dans votre salle d'autopsie. Non. Vous arrivez sur les lieux de crime et vous vivez aussi tous ces drames humains chaque jour qui se produisent.
C'est intéressant d'aller sur les lieux. Il faut s'en imprégner, hein, pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien saisir le cas, pour bien apprécier la situation et donc l'autopsie qui va suivre. S'être imprégné de la situation, des lieux, voir comment ça marche, comment le corps est tombé, à quel endroit il se trouve, etc., etc. C'est super important.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé sur une scène où en fait le mort ne l'était pas?
Oui, c'est déjà.
Vous présentez un cadavre qui en fait est vivant.
Oui. C'était à Liège, c'était la foire. Je me souviens très bien que c'était la foire de d'octobre qui se déroulait à Liège. Et les policiers m'appellent en me disant, écoute, on a un mort pour toi, il faut que tu viennes. J'arrive, et quand j'arrive, le policier tout blanc en bas, il me dit, écoute, monte, il n'est pas mort. Tu te fous de moi, hein? Il me dit, non, monte, il n'est pas mort, monte vite. Je suis monté dans les étages, il ne m'a pas dit l'étage, mais il y a toujours une porte ouverte, c'est là. Et donc je rentre et je vois un type qui est couché par terre. Et en fait, il était effectivement pas mort, mais il était tombé au sol parce que sa prothèse de hanche avait luxé. Il n'a pas su se relever du sol parce que, un peu trop vieux et surtout un peu trop alcoolisé. Et il était entré plus ou moins en hypothermie. Donc quand les policiers sont arrivés et qu'ils ont tenté de le réveiller, le gars, il n'a pas bougé. Et puis il y en a un qui a passé sa main entre le sol et le corps. Il était jusque dans sa poche, il était en veston comme aujourd'hui, jusque dans sa poche intérieure pour choper ses cartes d'identité et l'identité.
Et là, il s'est pris un coup de bras.
La police. Non. Et au moment où il a retiré le portefeuille, il y a le cadavre qui lui a attrapé le bras. Donc, il n'était pas exactement.
Et c'est là qu'on rigole en lisant ces histoires. On pratique moins d'autopsie que chez nos voisins, Philippe Boxo. Ça veut dire qu'on passe à côté de certaines enquêtes.
Ouais.
Certains meurtres ne seront jamais élucidés parce qu'on ne pratique pas assez d'autopsie.
C'est ça. Les professeurs Boutier du LB ont évalué à 70-80 meurtres par an à côté desquels on passe en Belgique parce qu'effectivement, on n'autopsie pas beaucoup. Alors, la moyenne européenne est à 12%. Nous sommes à 1-2%. Ce qui veut dire qu'il y a objectivement des morts à côté desquels on passe, quoi. Des meurtres à côté desquels on passe.
Vous écrivez ces livres, et vous le dites d'ailleurs dans l'introduction de votre dernier bouquin, parce que vous avez la rage sur les moyens qu'on donne à la justice.
Oui.
Votre métier de légiste, c'est un des maillons de la chaîne. Vous vous rendez compte, quoi, que notre justice est en déliquescence?
Je me rends compte que notre justice n'est plus capable aujourd'hui d'assumer toutes les charges qui lui incombent, uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'on ne leur donne pas. On les charge à Mac, C'est la même chose pour nous. On les charge à Mac et ils n'ont pas la possibilité de travailler correctement dans des conditions qui soient valables.
On rappelle qu'un médecin légiste, c'est pas la police, mais vous êtes assermenté, vous êtes parmi les experts judiciaires. Et là aussi, on évoque régulièrement les problèmes de paiement, les sous-effectifs. C'est votre réalité aussi.
Ouais, ça l'est. Alors, l'histoire que vous avez racontée avec l'Europe, là, hein, qui est à 12% et nous à 2% d'autopsie par an, a contraint le ministre Stephen Quickenborn à l'époque à sortir un projet qu'on appelait le projet Yemel, créant deux instituts au nord de médecine égale, deux au sud et un
Yemel, institut de médecine égale.
Voilà. Et les dotant d'une certaine masse financière pour pouvoir fonctionner. C'est un projet génial, superbe, mais bon, M. Van Kinkenborn a disparu, on a un nouveau gouvernement, et ça n'en est plus nulle part.
Mais ça veut dire, Philippe Boxo, que régulièrement en Belgique, il y a des morts suspectes, et on dit, bon, bah, on n'a pas les moyens, on ferme les yeux,
c'est pas tellement
circuler, il n'y a rien à voir.
Aujourd'hui, l'idée, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de suspect sur le plan policier? Non, ok, c'est pas suspect. Mais il y a nombre de morts pour lesquels les policiers ne voient rien de suspect parce que leur rôle, c'est pas d'examiner le cadavre, c'est d'examiner les lieux, l'endroit de commencer l'enquête, où nous, on découvre des raisons de suspecter un meurtre, voire de l'affirmer.
Et si vous écrivez dans votre livre, je me rends compte et j'ai la rage que nos gouvernements ne se rendent pas justement compte qu'il ne peut exister d'état de droit sans une médecine légale efficace. C'est pas le cas pour l'instant.
C'est pas le cas pour l'instant.
Et votre livre contribue à ça, c'est pour ça que vous avez écrit.
C'est notamment pour ça que j'ai écrit, et j'espérais qu'il y ait une réaction, mais objectivement, ils s'en foutent.
La réaction des lecteurs est là.
Des lecteurs, oui.
Plus d'un million de livres vendus pour les trois derniers livres, les trois premiers livres, d'ailleurs c'est vos trois premiers livres. Comment vous expliquez-vous ce succès-là?
J'ai demandé aux gens, parce que moi je n'explique pas. Donc j'ai demandé à ceux qui viennent en dédicace, tiens, pourquoi vous aimez mes bouquins? Et la réponse, c'est trois réponses en fait. Un, ce sont des vraies histoires, je le précise toujours, sur le plan médico-légal, c'est vrai, l'histoire racontée autour est romancée, on change le prénom, on change tout.
Ce qui est cocasse, c'est que vous mettez les prénoms de vos potes, apparemment,
oui,
c'est
oui,
ça
oui.
Comme ça, eux se découvrent des histoires sur des...
Je raconte aussi leur vraie vie, parfois, ça les surprend un petit peu.
Ah d'accord.
Oui. Et oui, ça, voilà, le true crime, ça plaît toujours, et puis il y a le ton qui est assez comique, marrant, mais ça c'est mon ton, je sais pas faire autrement, donc voilà, les gens rient en lisant. Et la troisième chose, c'est que les gens vous disent, j'ai jamais lu un livre de ma vie, mais votre bouquin, j'ai acheté, c'est le premier livre. Alors t'as des gens qui ont 15 ans, là, on peut comprendre sur le premier livre, mais t'as des mecs qui ont 40, 45, 50 ans, qui t'expliquent, c'est la première fois que j'achète un livre de ma vie, ça m'a fait...
Et ça, c'est devenu un moteur aussi, quasi marketing. Hier, vous tenez une conférence de presse à Bruxelles, dont le bénéfice d'ailleurs a été reversé à Objectif Livre, un programme de la Foire du Livre qui vise justement la promotion de la lecture dans ces publics peut-être éloignés, précarisés. Vous avez transformé justement un peu votre succès vers une vision quasi sociale, en fait, c'est ça l'objectif?
C'est ce que j'ai voulu. On a créé une ASBL, ça s'appelle Boxo in Vivo, c'est le nom qu'on a trouvé.
Pour éviter de parler que des morts, c'est ça?
Non, on va parler des morts, mais au moins, moi, je suis vivant pour en parler, c'est ça qui est marrant. Enfin, marrant, c'est un fait. Et puis, cette ASBL, on l'a créée pour faire en sorte que les bénéfices puissent être versés à des associations qui travaillent dans le domaine médical, notamment pour la lutte contre le cancer.
Parce que pour que les auditeurs se rendent compte, vous ne faites plus de dédicaces parce que c'est devenu ingérable. À cause des fils, vous faites des conférences qui sont quasiment sold out.
J'en peux plus. J'arrive à dédicacer à peu près 100 personnes à l'heure. C'est déjà pas mal, ça va vite. Mais sans les faire courir. Attention, c'est ma façon de travailler, de faire les dédicaces. Mais là, ils étaient, je sais pas où. 600, 800. Vous imaginez, 600, 800 dédicaces, je ne dormais pas, j'arrivais directement chez vous.
Alors, question très concrète, est-ce que vous avez déjà failli vous mourir?
Ah oui, c'est déjà mal arrivé, oui.
Vous pensez quand même à la mort en écrivant toutes ces histoires de cadavres dans quelle mort, avec quelle mort je voudrais faire ma vie?
La mort ne m'obsède pas, j'en ai pas peur. Il y a juste des manières de mourir, j'ai pas envie. Brûler.
Qu'est-ce que vous conseillez?
Ouais, c'est ça. C'est pas top, quoi, voilà. Ça, j'ai pas envie.
C'est quoi les pires manières de mourir?
C'est celle-là, brûler vif, c'est
brûler vif,
chose de terrible. Et la noyade, c'est paniquant d'une façon extrême, parce que vous savez que vous n'arrivez pas à respirer, il faut qu'à un moment donné vous y arriviez. C'est vraiment une panique intense.
Âme sensible qui nous écoute peut-être s'abstenir. Juste une question aussi, est-ce qu'à un moment donné, les techniques de meurtre évoluent? Vous avez une carrière de plus de 30 ans là, vous voyez des évolutions. On est dans une époque avec de l'espionnage, on entend parler de poison, avec des ingérences de certains pays étrangers, y compris au cœur de l'Europe, les ingérences russes ou chinois, ou la question de l'empoisonnement, et du coup il n'y a pas de traces de meurtre. Est-ce que c'est des choses que vous apprenez, entre guillemets, aussi à évoluer dans la technique
C'est une technique qui concerne surtout la toxicologie médico-légale, donc les toxicologues, les chimistes qui travaillent avec nous, qui sont exceptionnels, ils travaillent super bien, et c'est eux surtout que ça concerne. Ils ont la nécessité, effectivement, de rechercher parfois des poisons auxquels ils ne pensent pas. Or, si vous ne pensez pas à un poison, vous risquez de passer à côté. Vous voyez, nous, C'est une vraie obsession. Dans mes rapports d'autopsie, je mets toujours que la cause du décès est telle, à condition qu'il n'y ait pas eu d'empoisonnement, lequel n'est pas détecté par les techniques d'autopsie. Pour découvrir un empoisonnement, il faut qu'on réalise une enquête toxicologique, vous voyez. Il n'y a qu'un seul poison qui sent et qui est détectable, c'est le cyanure. Et encore, il faut être codé génétiquement pour le sentir, voilà.
Est-ce que vous êtes déjà passé à côté de cas, d'affaires, d'élucidations, et vous vous êtes rendu compte par après, en disant, en fait, le franc est tombé, mais le cadavre était déjà enterré.
Ah, déjà enterré. Déjà enterré, c'est pas grave, on va les chercher. Mais déjà incinéré, ça c'est emmerdant, parce que le reconstituer, une fois qu'il est en poussière, c'est fini. Ça m'est pas encore arrivé, et je suis très très content que ça me soit pas encore arrivé.
Trois livres, la suite, ça serait sur le Christ? Pourquoi?
Ah non, je vais faire un chapitre sur le sueur de Turin. Le Christ, j'en ai déjà parlé dans le deuxième. J'ai parlé de l'autopsie du Christ, j'explique comment on meurt en croix, parce que les gens sont toujours braqués sur le fait qu'il y a des...
Vous n'êtes pas obligé de donner les détails à 8h du matin.
Mais c'est sur le sueur de Turin. Sur le sueur de Turin, je fais un chapitre qui est un peu plus long que d'habitude.
Parce que ça aussi, c'est un élément de votre vie. J'aime bien. Vous avez failli être prêtre.
Ouais.
Oxo.
Et le quatrième livre, il est prévu pour quand alors, Philippe Boxo?
Fin août. Le 26-27 août.
Bon, on passe un bel été.
En attendant, le dernier, c'est Les morts ont la parole, c'est aux éditions Canet. On n'a jamais autant parlé de la mort dans cette interview de Matin Première. Merci beaucoup. Merci.